Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est issue du recueil Le cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière. Il était une fois, deux fois, maintes fois, deux amis de longue date qui se rencontrèrent. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis le collège. Ils se rencontrent. L'un est un modeste professeur de littérature, l'autre a splendidement réussi dans les affaires. « Il faut absolument que tu viennes chez moi !» s'écrie ce dernier. « Tiens, regarde ma voiture !» Il lui montre une magnifique Rolls-Royce, toute brillante. Un chauffeur s'approche, casquette à la main. « C'est mon chauffeur !» dit l'homme riche. « Monte !» Les deux amis s'asseyent à l'arrière de la voiture féerique. Un moment plus tard, ils parviennent devant de hautes grilles qui s'ouvrent automatiquement. « Mon parc, mes arbres, regarde !» Le professeur regarde autour de lui, émerveillé, tandis que la voiture serpente dans les allées d'une propriété immense. « Mes tennis, mon golf, là-bas mes chevaux !» La voiture s'arrête enfin devant la façade monumentale d'une demeure de style victorien. Un domestique se précipite pour recevoir son maître, qui sort de la voiture en disant à son ami: « Voici ma maison, mes rosiers, mon gazon, mes piscines, mes garages. » Les deux hommes pénètrent à l'intérieur de la maison et le businessman continue. « Mon hall, mon escalier, ici mon chagall, mon renoir, ma collection de porcelaine, mes tapis. » Il entraîne le professeur jusque dans une vaste bibliothèque, entièrement couverte de livres rares, très somptueusement reliés. « Ma bibliothèque, mes Marocains du XVIIe siècle, ah, mes manuscrits à peinture. » Ils font ainsi le tour du rez-de-chaussée. Puis, ils montent au premier étage pour la suite de la visite. « Mes tapisseries, mes dessins italiens. » L'homme riche met la main sur la poignée d'une porte en disant « Ma chambre ». Il ouvre la porte. À l'intérieur, dans un lit désordonné, se trouvent un homme et une femme au milieu d'une action amoureuse. Ils se désenlacent aussitôt, tandis que le businessman, légèrement décontenancé, dit à son ami « Ma femme !» Puis désignant l'homme nu qui se tient assis dans le lit, il ajoute « Et là, c'est moi !» La propriété est un piège. Ce que nous croyons posséder nous possède. Alphonse Carr. En découvrant cette histoire, j'avais en tête la fameuse chanson de Patrick Bruel « On s'était donné rendez-vous dans 10 ans ». Et je repensais aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants que j'ai eu la chance de côtoyer il y a déjà quelque temps. Et je me disais, que sont-ils devenus? Ils ont certainement chacun poursuivi une certaine vision de la réussite. Nous avons tous une définition singulière de la réussite. Pour certains, ce sera le statut social, le salaire, la célébrité. Et pour d'autres, l'équilibre vie pro, vie perso, le fait de fonder une famille, d'avoir une vie harmonieuse, de se sentir utile, etc., etc. Mais il y a tout de même un conditionnement social qui fera que les modèles de réussite ne sont pas les mêmes suivant l'époque, l'endroit, l'éducation reçue. Paul de Wandre, dans son livre « La parabole du kayakiste », vient questionner la validité du modèle de réussite hérité des Trente Glorieuses. ce modèle consiste à assurer son bonheur par la sécurité matérielle. Avoir un travail, un salaire, accéder à la propriété, à la sécurité sociale, aux caisses de retraite, aux allocations chômage. Si on simplifie un peu la pyramide de Maslow pour ne retenir que trois niveaux, le socle de la pyramide en est justement cet aspect matériel, cette sécurité matérielle. Puis, il y a un deuxième bloc qui est un besoin d'appartenance et d'être en lien. Et enfin, tout au-dessus, le dernier bloc serait un besoin d'estime et de dépassement de soi. Pour Paul de Wand, ce modèle-là a du mal à fonctionner dans notre société aujourd'hui plus qu'incertaine. Aussi, il propose une inversion de cette pyramide, et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire de s'appuyer d'abord comme socle une bonne estime personnelle, une bonne relation à soi, pour pouvoir, une fois qu'on a cette estime personnelle, nourrir ensuite de bonnes relations aux autres. Et puis, pour Paul de Wand, l'argent arrive enfin de surcroît. Cette alternative à la pyramide de Maslow, ou cette pyramide revisitée, est assez intéressante parce que, en effet, mettre la sécurité matérielle comme socle est très dangereuse, notamment aujourd'hui où, en effet, la société est un peu plus incertaine, il y a de nombreux burn-out, il peut y avoir des pertes d'emploi. Et bien, dans ces cas-là, les personnes qui ont été tellement investies dans leur job qu'elles n'ont pas pris de temps pour elles, pour développer des amitiés, d'autres centres d'intérêt, eh bien, en cas de pépin, comme j'ai cité, licenciement, burn-out, pépin de santé, eh bien, tout s'effondre. C'est pourquoi se connaître soi-même et s'apprécier devient aussi important. Le riche du compte a, c'est certain, fait une réussite matérielle. Mais qu'en est-il de ses relations aux autres et de sa relation à lui-même ? Il rencontre un ami de longue date et monopolise la conversation. C'est une relation à sens unique. Il ne se préoccupe pas le moins du monde de la vie de son ami, tout occupé qu'il est à montrer la sienne. C'est un véritable show-off. L'homme riche monte des objets matériels, une voiture de luxe, des tennis et des piscines. Il possède et exerce aussi une forme de pouvoir avec des personnes sous ses ordres, un chauffeur, un domestique qui se précipite pour venir accueillir son maître. En montant dans les étages de la maison, on s'élève vers des objets d'art, des livres précieux, un accès à la culture. Et puis, tout bascule au moment de la visite de la chambre, quand ils surprennent l'épouse de l'homme riche dans les bras d'un autre. Le businessman semble un peu décontenancé l'espace d'un bref instant, mais très vite, il se reprend et ne perd pas la face grâce à cette réponse aussi formidable qu'absurde « Et là, c'est moi », dit-il en désignant l'amant de sa femme. Tout se passe comme si la femme et l'amant étaient juste une possession de plus, ou des êtres sur lesquels le businessman exerce son pouvoir. Comme si l'amant était payé pour jouer son propre rôle et effectuer son devoir conjugal à sa place. Quelle tristesse et quelle absurdité. Si on revient dans le monde réel, je me souviens il y a quelques années de ça, j'avais en face de moi des managers réunis pour apprendre à apprendre ensemble. Et à l'image de Charles Pépin dans son livre « Les vertus de l'échec », nous les invitions à préférer la sagesse de l'échec à l'ivresse du succès. L'idée était de leur proposer de revisiter une situation de plantade, normalement plutôt dans la sphère professionnelle, et d'en partager avec le groupe les apprentissages tirés. L'un d'entre eux avait témoigné de manière très émouvante qu'il s'était beaucoup investi dans son travail et n'avait pas du tout réalisé que sa famille, sa femme et ses enfants, avaient besoin de lui, d'être nourris régulièrement de sa présence, de son attention, et un jour, sans qu'il le voie venir, sa femme avait décidé de le quitter. Et il avait alors réalisé qu'il venait de perdre en fait ce qui pour lui était le plus important, le plus essentiel, et qu'il pensait solide comme le roc. Or, il avait mis son énergie ailleurs. Il me faisait l'impression d'un homme qui aurait monté tous les barreaux d'une échelle pour s'apercevoir qu'elle était posée sur le mauvais mur. Sur la réussite, il n'y a pas de vérité absolue, et je ne suis pas en train de vous dire investissez plutôt dans votre famille que dans le travail. Il n'y a pas de vérité absolue parce qu'il y a uniquement sa vérité à soi, sa définition personnelle, ses besoins propres. Un de mes amis, consultant dans un grand cabinet de consulting, m'avait confié qu'entre collègues, il tenait des stats du nombre de divorces chez les salariés de ce groupe. Il s'en amusait. Moi, ça m'horrifiait. Il disait clairement que la priorité pour lui et pour ses collègues, c'était la carrière. Et ses choix semblaient être bien assumés et il s'épanouissait dans ce qu'il faisait. Il n'y a pas de choix meilleur que d'autres, du moment qu'il s'agit de véritables choix en conscience. Afin d'éclairer nos choix de vie et de mieux nous connaître pour nourrir le socle de la pyramide inversée de Paul de Vendre, l'outil que je vous propose aujourd'hui s'appelle la boussole de vie. Je vais vous inviter à tracer sur une feuille 10 cases et dans chacune d'elles écrire le nom de la case et tracer un petit carré en haut et un autre en bas. N'hésitez pas à me réclamer l'outil formalisé en vous rendant sur lavieestuncompte.com. Ça sera peut-être plus simple. Une fois que vous avez tracé vos 10 cases, je vais vous donner les noms des domaines que nous allons explorer. Dans la première case, vous allez marquer le rôle de parent. Dans la deuxième, le développement personnel. Ensuite, les loisirs. Puis la spiritualité, la santé, le travail. Dans une case, la communauté et l'environnement ensemble. Les relations familiales ensuite, les relations intimes et enfin les relations sociales. Dans un premier temps, nous allons remplir chacune de ces cases. Dans la partie principale de chaque grande case, écrivez quelques mots clés concernant ce qui est important ou ce qui a du sens pour vous dans ces domaines de vie. Par exemple, dans le rôle de parent, quel papa ou quelle maman voudriez-vous être? Que voudriez-vous faire avec vos enfants? Quel type de force ou de qualité voudriez-vous développer? Que voudriez-vous représenter pour vos enfants? Si une case ne vous semble pas pertinente, ce n'est pas un problème, laissez un blanc. Si vous bloquez sur une case, vous y reviendrez plus tard. Et ça ne pose aucun problème si les mêmes mots apparaissent dans plusieurs, ou voire dans toutes les cases. Une fois que vous avez rempli avec vos mots-clés tout ce qui est important pour vous dans chacune des cases, ensuite, dans le petit carré supérieur de chaque grande case, vous notez sur une échelle de 0 à 10 l'importance de ces valeurs à ce moment dans votre vie. 0 signifie aucune importance, 10 une importance majeure. Ça ne pose pas de problème si plusieurs carrés ont le même score. Enfin, dans la petite case du bas, notez sur une échelle de 0 à 10 toujours comment vous appliquez actuellement ces valeurs de façon concrète, 0 signifiant pas du tout et 10 en les vivant pleinement. Maintenant, quand vous aurez rempli toutes les cases avec vos mots-clés, donnez une note d'importance en ce moment dans votre vie et une note d'application. Vous avez une vue d'ensemble sur ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que cela dit à propos de ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que cela dit à propos de ce que vous négligez habituellement? Et enfin, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire en termes d'actions concrètes dans les semaines qui viennent? La boussole de vie est un outil que vous pouvez utiliser à plusieurs fois dans l'année. Elle évolue tout au long de l'année et ça peut être intéressant d'en refaire une tous les 6 mois par exemple et de regarder comment elle a évolué. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Quel score ont augmenté ou quels scores ont au contraire baissé, et comme une boussole, se donner une direction pour les mois à venir. Et maintenant, allons faire un tour du côté de l'entreprise, comme j'aime bien le faire. Le travail peut être parfois un formidable lieu d'épanouissement et de sens, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'Institut Gallup révélait en 2017 que 18% des salariés étaient clairement désengagés, c'est-à-dire, selon l'Institut Gallup, qu'ils se sentaient malheureux dans leur travail. Quel dommage. J'aime beaucoup la vision de Danone sur le manager. Ils le définissent ainsi. L'encadrant chez Danone est quelqu'un qui, par un cheminement intérieur, s'est révélé à lui-même et devient révélateur de son équipe au service de la performance et de l'efficacité. Vous voyez, on retrouve la pyramide inversée de Paul Devendre et ce socle de l'estime personnelle, de la connaissance de soi. Si c'est le type de manager que vous souhaitez être, alors l'outil que je vais vous proposer peut vous permettre de faire un pas dans ce sens. Il est tout simple et peut se faire en inclusion d'une réunion d'équipe. Il s'agit de proposer à chacun de réfléchir à une métaphore de lui-même dans son activité professionnelle et de la partager. Certains pourront se voir comme des jardiniers patients et bienveillants, des cuisiniers créatifs, des pilotes d'avion, des explorateurs, des tisserands, etc. Cette métaphore qui émerge est tout de suite reliée au sens que chacun attribue à sa mission. Personnellement, la métaphore qui me vient concernant mon métier de coach, et notamment de coach d'équipe, est celle de couturière en patchwork humain. Une couturière n'est pas une styliste. Elle n'a pas le design final en tête. Elle rassemble des pièces de tissu aux couleurs variées, elle resserre les liens et en fait un tout harmonieux. C'est vraiment ainsi que je vois ma mission en entreprise. Permettre de faire une œuvre collective en alliant les aspirations et les singularités de chacun avec les enjeux de l'équipe et de l'entreprise. Vous pouvez inviter chacun autour de la table à partager sa métaphore en dépliant un peu. Le partage sera riche pour tout le monde et mettra en valeur les belles qualités en présence. Ce type d'inclusion lance la réunion sur une belle énergie. Nous arrivons à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons de la mort d'un imbécile. Et de savoir être à l'écoute des signes de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt.